Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Au programme cette semaine, des Good Gones en pleine forme et heureux de vous retrouver. On espère que c'est réciproque. Nous parlerons d'un musée qui n'est plus vraiment un musée, de la Biennale d'art contemporain de Lyon, épisode 2 avec Gaël, et de musique avec Guillaume et avec le dernier album de Florent Marchais, qui sera en concert à l'Épicerie Moderne la semaine prochaine. Profitez-en. Bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec Till Fellrath. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, c'est un des commissaires de la Biennale d'art contemporain de Lyon. Nous avons parlé d'un musée qui n'est plus vraiment un musée, le célèbre Guimet évidemment, qui accueille jusqu'au 31 décembre les œuvres sélectionnées par Sam Bardawil et lui-même. Je l'ai rencontré dans l'ancien musée, devant une des œuvres de l'artiste colombienne qui est l'un de mes coups de cœur, Leila Cárdenas. Je vous propose d'écouter notre échange.
Nous sommes ici au musée Guimet. C'était un choix, une envie de votre part d'investir cet ancien musée?
Oui, le musée Guimet, c'était vraiment pour nous un rêve de faire que ça fasse, de le réaliser dans le cadre de la Biennale. Et on a eu beaucoup de soutien, heureusement, de la directrice artistique de la Biennale, Isabelle Bertolotti, ici du maire de la ville, de rouvrir ce musée après 15 ans pour cette Biennale. Et un musée d'histoire naturelle qui n'est plus là, c'est aussi un témoignage du fait que les musées ne sont pas pour toujours non plus, donc même les musées, les institutions sont fragiles. Travailler dans la culture, c'est toujours précaire, c'est toujours fragile. Et par une autre ligne, un musée d'histoire naturelle est-il aussi une institution qui explique un petit peu les hiérarchies du monde. Donc c'est quelles cultures peut-être au haut, quelles cultures sont plutôt en bas, l'être humain en connexion avec la nature, les animaux, donc ça explique et ça créer une certaine hiérarchie dans le monde, parfois par une perspective coloniale par exemple ou d'autres perspectives, mais c'était quand même la visualisation d'une idéologie ou d'une manière de penser du monde entier. Donc, si on le voit ici dans le cadre de la Biennale, on ne rentre pas de l'ancienne entrée principale. On l'a bien fermée, on l'a laissée fermée. Et on rentre du rez-de-chaussée, un peu du stockage. On rentre un peu par des salles qui étaient des anciennes salles thématiques, mais aussi on dépasse les stockages. Pour après venir ici à la grande étage, en fait la grande salle triangulaire que beaucoup de Lyonnais se souviennent beaucoup toujours. Donc c'est aussi un petit peu une scénographie, une subversion, si on peut dire, de ce bâtiment, son histoire et son idéologie. Et beaucoup des artistes ont fait cette connexion. Et je crois qu'on y est, comme vous le dites, il y a une grande émotion, c'est émotionnel, il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de... peut-être angoisse, mais aussi de l'espoir de peut-être revoir un petit peu les choses comme ils sont actuellement.
Il y a aussi de l'humour et il y a des œuvres in situ comme celle-ci devant laquelle nous nous trouvons, de Leila Cárdenas, qui est d'origine colombienne, qui a peint directement sur un mur comme une forme de gravure. C'est quelque chose d'éphémère qui ne partira pas en fait avec l'artiste hein, qui est là et qui est fragile justement avec vous avez décidé de laisser hein, les petites traces de cette gravure au sol hein. Évidemment vous n'avez pas balayé après hein, c'est vraiment l'objectif.
Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Et si on regarde ce grand panneau ou ce grand mural, on voit des photos des éléments structurels du musée Guimet. Donc, on voit un petit peu la grande salle triangulaire. On voit aussi un petit peu cette tour ronde, rotonde, on peut dire. Mais c'est doublé comme une fiction. Donc, on a des traces de l'histoire, des traces de mémoire. Et ce qu'elle fait, en fait, en grattant contre les murs, c'est de le retrouver. C'est comme une découverte, comme on a fait peut-être dans des excavations ou un truc comme ça, l'histoire archéologique, tout à fait, c'est exactement ça. Donc les traces, ils sont toujours partie de l'œuvre, et pour l'artiste même, peut-être cette œuvre ne doit pas toujours rester. Donc, ce n'est pas une œuvre qu'on peut amener pour après la vendre dans une galerie ou n'importe quoi. C'est contre le marché, c'est contre tout. Et c'est aussi la question, est-ce qu'il faut toujours vraiment garder toutes les œuvres? Qu'est-ce qu'il faut collectionner? Peut-être tout est fragile, il faut juste accepter qu'on ne peut rien garder pour toujours. Et c'est un peu l'expression.
Et vivre cette expérience dans l'instant, dans le moment, que c'est un petit peu ce qui vous a conduit dans vos choix. C'est-à-dire quelque chose qui a résonné en vous, d'éléments qui résonnent pour choisir des œuvres. Est-ce que c'est dur de choisir une œuvre?
Je crois que c'est peut-être dur si on n'en regarde pas ce qu'on a en soi-même. Donc c'est aussi beaucoup d'intuition, c'est aussi choisir par le cœur, je veux dire. Donc beaucoup d'œuvres parlent vraiment directement des thèmes de fragilité. Il y a une connexion directement humaine qu'on fait facilement, par exemple, avec la musique. Dans l'art contemporain, ça se complique parce qu'il y a les historiens d'art et des commissaires comme nous qui compliquent les choses. Ils souvent se rassurent que personne ne comprend plus rien après. Mais il faut un vrai retour, en fait, aux artistes qui ont créé les œuvres, parce qu'à travers ces conversations, on peut sentir des choses. Donc les artistes nous démontrent leur propre fragilité. Donc c'est aussi très très vulnérable cet état de dire, voilà, moi, ça me fait du mal. C'est là, je me sens pas du tout sûr, c'est mon anxiété. Et c'est là où le visiteur peut faire la connexion. Donc je suis convaincu que les visiteurs, même le grand public, qui forcément pas vont dans les musées d'art contemporain, ils peuvent faire des connexions et peuvent s'y retrouver. Et pour une Biennale, qui est beaucoup plus qu'une exposition thématique, c'est une manifestation puissante qui implique la vie, tous ses partenaires. C'est très important qu'on a aussi cette démarche que, voilà, il y a des portes ouvertes, il y a 7 lieux qui sont accessibles gratuitement. Donc c'est une invitation, une espèce de teaser, si on veut dire, pour vraiment après voir la Biennale entièrement. Je suis convaincu que tout le monde y trouvera quelque chose qui font des émotions.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
On enchaîne avec toi, Gaëlle, et ton épisode 2 de la Biennale d'art contemporain. On vient d'entendre l'un des commissaires, Tim Fellrath, que j'ai pu interviewer à l'intérieur du musée Guimet. J'imagine en fait que toi-même, tu es allé faire un petit tour dans ce musée qui n'est plus vraiment un musée. Bref, que retiens-tu de cette exposition? Tu nous en as parlé déjà la semaine dernière, effectivement. Donc, où en es-tu dans cette chronique 2?
Alors après le premier épisode, la semaine dernière, voilà le deuxième épisode. La dernière fois, on a fait un tour d'horizon des œuvres monumentales de la Biennale de Lyon. On va continuer aujourd'hui notre déambulation. Commençons par un focus sur les œuvres à l'échelle 1. Le Belge Hans Hop de Beck occupe une halle entière avec « We were the last to stay ». Nous étions les derniers à rester. Un parc de caravanes monumental à l'échelle 1 semble pétrifié sous une couche uniforme de couleur grise qui recouvre la halle 4 des usines Fagor du sol au plafond. Le geste est autant minimaliste que l'impact est fort. L'espace nous porte à une contemplation silencieuse des caravanes, des jeux d'enfants, jusqu'aux plus infimes triviales détails tels qu'un carton à pizza. Sommes-nous immergés dans une scène de crime recouverte de cendres grises ? Évoluons-nous dans un Pompéi moderne ou sommes-nous face à des pierres tombales dans un environnement feutré et assourdi? La fragilité réside aussi dans les traces les plus communes de notre quotidien. Plongés dans cet espace monochrome, nous sommes condamnés à adopter un nouveau regard définitivement plus attentif. Hans Hop de Beck expose également au musée Gadagne avec Raoul. Raoul, titre de la vidéo, c'est le danseur Raoul Serrano Nunez. Entièrement recouvert de peinture grise, il est attablé devant une nature morte en couleur qu'il fait évoluer. Hommage conjoint à Vermeer, David Lynch et Raymond Carver, l'œuvre met en scène une chorégraphie poétique et enregistre les gestes, parfois maladroits mais non dénués d'humour, du danseur. Fragilité ? Elle s'insinue aussi dans des petits gestes de la main. Pour les œuvres à l'échelle 1, citons également le Colombien Pedro Gomez Egaña, qui découpe l'intérieur d'un appartement avec chambre, cuisine et toilette. L'appartement ainsi fractionné devient inhabitable. Des performeurs animent la structure en bougeant, par exemple, des tableaux accrochés au mur. Fragilité ? ce que l'on pense immuable peut être découpé et évolué. Paradoxalement, le solide, le durable et le pérenne n'ont ainsi en commun que leur fugacité. Et la fin, car oui, nous allons tous mourir. Comment faire perdurer le souvenir des disparus? C'est la proposition de la Tunisienne d'origine ukrainienne Nadia Kaabilink avec le chuchotement du chêne. Dans son espace avec un arbre, un chêne donc, allez bien au milieu de la salle et en posant vos mains sur les troncs, soyez à l'affût. Vous allez physiquement ressentir le chuchotement de l'arbre. L'expérience est tellurique. Vibrations, stimuli puissants, frissons, étonnement et émerveillement, l'invisible devient une sensation physique. Chaque feuille de chêne correspond à un être disparu. L'artiste ayant recueilli les récits de personnes ayant perdu un être cher. Récits qu'elle a convertis en battements sonores qui résonnent sur le bois des branches du chêne. Fragilité ? Et vous, quel chuchotement murmure vos disparus ? Comment sonne votre arbre de vie contemporain ? Le Mexicain José Davila joue aussi avec l'échelle 1. Son installation « La science comme la réalité reste platonicienne » propose un jeu d'équilibriste entre état stable et état précaire. Il expose des meubles et des objets trouvés à Lyon. Ce mobilier résiste aux forces de la gravité grâce à des rochers ou des blocs de béton qui, maintenus par des sangles, font contrepoids. On se pose la question, comment cela tient-il ? Fragilité ? José Davila remet en question l'idée de stabilité via ses combinaisons aux équilibres précaires. Les meubles en échelle 1 sont également présents au musée Guimet avec l'intervention de Tariq Kiss-Vanson. Ces sculptures d'une parfaite blancheur, réalisées en résine et fibres de verre, s'intègrent et dialoguent avec du mobilier abandonné et récupéré du musée. L'installation déjoue les lois de la gravité également, car les sculptures en forme de cocon semblent greffées sur le mobilier en lévitation. Intitulée « Nest », donc « Nid », ces formes évoquent les chrysalides auparavant exposées au musée Guimet. Fragilité. L'artiste offre une réflexion autour du flottement né des histoires de migration, mais aussi plus largement sur l'incertitude de la condition humaine. À noter hein, pour cet épisode aujourd'hui la triple programmation des œuvres de la Lyonnaise Aurélie Pétrel, Usine Fagor, Parc LPA République et Galerie Cesson et Bénétière. Entre fragilité et résistance, opacité et transparence, l'artiste propose un labyrinthe de panneaux de verre montés comme de multiples paravents. Avec ce dispositif, Aurélie Pétrel raconte l'histoire d'une jeune Lyonnaise à partir d'un agenda des années 50 qu'elle a trouvé chez un bouquiniste à Beyrouth. Après les œuvres monumentales et à l'échelle 1, déambulons autour de productions de taille plus standard. La Colombienne Leila Cárdenas propose au musée Guimet une installation de fils colorés tendus à des lattes du plancher. Les fils font référence aux étais. Vous savez, ces fameuses pièces de charpente qui servent à soutenir des charges. Mais soyez bien attentifs, ces fils révèlent une image imprimée de l'architecture du musée. Magie assurée face à ces images aux apparences de spectres dans la lumière. La 16e Biennale travaille l'esthétique de la ruine. Ici, Leila Cárdenas exhume des histoires cachées du bâtiment à travers les vestiges de l'architecture du musée qu'elle reconstitue. Fragilité ? Elle réside dans l'ambivalence du lieu abandonné et de ses traces. Autre relecture, celle de Jesse Mokrin. En jouant la citation et le détournement, ses peintures proposent une nouvelle lecture des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. L'artiste prélève des détails qu'elle juge signifiants pour recréer de nouvelles identités. Fragilité ? Quels glissements connaissent l'identité et quelle est la résilience du corps humain ? Et comment exposer la fragilité à l'échelle d'une ville ? C'est l'une des propositions du MAC, donc Musée d'Art Contemporain de Lyon, avec Beyrouth et les Golden Sixties, dédiée à la création libanaise de 1958 à 1975. Ce voyage spatio-temporel autour de 34 artistes expose en point d'orgue une vidéo de l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. Œuvre du duo et couple libanais Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, cette vidéo nous donne à voir des images plus qu'éloquentes. Images de caméras de surveillance d'un musée de Beyrouth, pile au moment de l'explosion. On voit aussi deux jeunes mariés en pleine séance photo, heurtés de plein fouet par le souffle de l'explosion. Ce même couple d'artistes libanais est présent aux usines Fagor avec la vidéo « Where is my mind ?» composée de reproductions de statues antiques décapitées ou de têtes qui n'ont plus le reste de leur corps, l'œuvre pointe l'idée de la fragilité dans la beauté perdue de statues mutilées par les ravages de l'histoire. Liban toujours, au musée Guimet, avec le film d'animation « Le monde s'en va en guerre et moi j'en reviens » de la réalisatrice Nadine Labaki, du compositeur Khaled Mouzanar et de l'illustrateur Georges A. Maya. Point commun des trois artistes, une enfance marquée par la guerre civile au Liban. L'œuvre est un intense et puissant film d'animation basé sur une chanson écrite par Khaled Mouzanar qui décrit toutes les victimes de la guerre qu'il a rencontrées dans son enfance. Les victimes marchent vers lui. Or, il veut les avertir de l'issue inéluctable et il va donc marcher en sens inverse. La vidéo est projetée dans un espace qui ressemble à un bunker, évoquant ainsi les abris de fortune. Fragilité ? Quelles sont les résiliences et résistances en période de guerre ? Finissons par l'œuvre la plus humoristique de la Biennale. La vidéo « Les extraordinaires mésaventures de la jeune fille de pierre » de l'américano-portugais Gabriel Abrantes. Projetée aux usines Fagor, la vidéo retrace l'histoire d'une jeune sculpture toute timide, réveillée grâce au pouvoir magique de la victoire de Samothrace. Nous sommes donc au musée du Louvre. La jeune fille de marbre sort du musée pour suivre un guide conférencier. Elle s'aventure ensuite dans une manifestation, puis est blessée. L'impressionnante technique, un tournage en conditions réelles doublé d'images de synthèse, n'altère en rien ni la poésie ni l'humour de l'œuvre. Fragilité ? Quelle est la place de l'art face au réel et face aux luttes et enjeux d'une société en souffrance ? La Biennale est programmée jusqu'au 31 décembre. La billetterie est de 12 à 20 euros. Plus d'informations sur labiennaledelyon.com.
On enchaîne avec toi, Guillaume. Cette semaine, il est question de Florent Marchais. Une fois de plus, tu nous parles de chansons françaises. J'ai l'impression que cette rentrée, tu as envie de célébrer le français que tu enseignes aussi par ailleurs. Donc effectivement, je vois que tu as été inspiré par ces artistes, dont Florent Marchais, qui sera à l'épicerie moderne, je crois.
Oui, très bientôt. Alors, Florent Marchais, c'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant, il a déjà une immense carrière. C'est son sixième album, et c'est un touche-à-tout, mais qui fait tout bien. Florent Marchais, il a écrit un roman en 2020 qui se déroule un petit peu dans le milieu de la campagne, des gens qui sortent de la ville pour essayer de vivre à la campagne, et puis qui ont des ados, et bon, il y a une crise d'adolescence. C'est un petit peu raconté en filigrane sa propre campagne du côté de Bourges, puisqu'il est né à Bourges. Il a aussi beaucoup travaillé la musique de film. Moi, j'aime beaucoup un film d'Eric Caravaca avec qui il a travaillé, qui s'intitule Carré 35, qui est un excellent documentaire autobiographique, une espèce d'enquête familiale. Et finalement, je trouve qu'il y a un rapport avec ce disque qui s'intitule Garden Party, voilà, qui vient de sortir, enfin qui est sorti au mois de juin, mais dont il va faire la promotion en concert à partir de la rentrée. Et d'ailleurs, moi, ça m'amuse parce que j'avais pas fait attention sur la pochette du disque, donc il y a une sorte de maison du bonheur. Et puis, il y a un barbecue. Et il se trouve qu'en ce moment, le barbecue est un petit peu à l'honneur grâce à certains de nos comiques troupiers politiques. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je pense que c'est complètement le hasard puisque le disque est sorti bien avant le polémique. Moi, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait un bon disque ? Pour moi, un grand disque, eh bien d'abord, c'est un disque qui, en fait, vous tend comme une sorte de miroir. Quand on écoute en français des paroles, elles nous touchent immédiatement. Et donc, forcément, on est happé hein, par les histoires qui sont racontées. Ce que raconte Florent, c'est pas forcément sa propre vie. Il y a une part d'autofiction, il y a une part de narration, voilà, de choses inventées. Quand on se retrouve dans une chanson ou dans des bribes de paroles où ça fait écho à quelque chose que vous avez vécu, ben, je trouve que déjà, pour moi, c'est la preuve d'un bon disque. Puis bien sûr, une autre chose moi qui me fait dire bah, ce disque-là, je le retiens, c'est parce qu'à chaque nouvelle écoute, eh bien, j'ai une nouvelle chanson favorite. Ok, il y a des singles, on sort des titres pour les médias, mais quand on écoute l'album, qui comporte pas mal de chansons, là, moi je l'ai en vinyle, alors évidemment, il y a deux vinyles, et donc il y a quatre faces, donc un peu à l'ancienne, et ça aussi j'aime bien ce côté un peu à l'ancienne, et donc si je compte bien 3-4 et 3-7 et 3-10 et 3 donc 13, donc 13 chansons. Et chaque chanson, finalement, à chaque fois que je l'écoute, eh bien, il y en a une qui ressort. Eh bien, c'était le premier single de Justesse, qui était vraiment une chanson qui était tendue sur le fil, comme ça. Ensuite, il y a eu ce titre Freddie Mercury, qu'on ne vous passera pas, que vous allez écouter par vous-même, parce que c'est un titre plus de 7 minutes, et qui forcément n'est pas très radiophonique, mais pourtant qui est un des morceaux, pour moi, qui est le cœur de l'album, qui est d'abord le début de la phase C, donc bon, physiquement, c'est le cœur de l'album, et qui raconte une histoire d'amitié très forte. Et cette histoire, qui s'intitule Freddie Mercury, je vous laisse découvrir. C'est très, avec le titre, c'est très...
On peut peut-être en écouter un extrait,
un
peut-être
petit
que
extrait.
Florent Marchais ne nous en voudra
ouais,
pas.
Alors, mais après, il faudra vraiment l'écouter en
d'accord.
entier, parce qu'en fait, il y a toute une histoire
même,
avec une...
Guillaume,
une...
tu nous donnes le goût d'écouter ça, et peut-être que tous nos auditeurs n'iront pas forcément écouter
c'est
sur
vrai,
les plateformes.
C'est vrai, mais Freddie Mercury,
autre...
il y a toute une histoire, d'accord, qui se déroule comme ça, avec différents personnages, et c'est un morceau qui est très émouvant, et surtout ce morceau, Florent ne chante pas vraiment, c'est plutôt comme s'il vous susurrait quelque chose à l'oreille. Évidemment, il y a de la musique.
J'avais 15 ou 16 ans, c'était la rentrée au lycée. Tu t'es avancé vers moi, t'étais mince, assez grand. Tu m'as dit ton nom, que tu venais d'arriver, qu'avant t'habitais dans le nord, pas très loin d'Arras. Le nom de la ville ne me disait rien. Je me rappelle de toi, d'une veste délavée, d'un jean un peu crado, cheveux blonds assez longs, en tout cas pour un garçon. Au moment de la sonnerie, tu m'as offert une Lucky. On est resté un peu à la grille, à cloper, j'étais bien. Pour une fois, je me sentais drôle, parce que tu riais. D'ailleurs, tu riais facilement, la main devant la bouche, pour mieux cacher tes dents. Les autres, ils t'appelaient John, et aussi le beatnik, à cause de tes lunettes. Elles étaient rondes et petites. Toi, tu t'en foutais bien. Moi, je me disais, ça y est, j'ai enfin trouvé un allié. On allait souvent chez toi, une cité HLM. Je me souviens d'un lac, de quelques immeubles, et des types en jogging qui fumaient sur un banc. Chez toi, ton père y parlait peu. Avec lui, on buvait de la bière et du rosé, acheté chez Lidl, à deux pas de l'appart. On passait des heures dans le canapé bleu tout défoncé. On partageait les écouteurs, Lou Reed, Scheller, Ferré. Presque aucun truc récent. Nick Drake, évidemment. Le salon sentait bizarre, la levure ou le curry. Très souvent des odeurs de friture, c'est ton père qui cuisinait. Je me souviens, il faisait même son pain. Tu habitais au rez-de-chaussée, c'était pas bien grand. Il faisait toujours sombre à cause des rideaux fermés. C'était pas un problème. Nous on aimait bien, et on restait quand même. Pourtant avec ta mère c'était pas la fête, elle criait tout le temps. Toi tu me disais c'est rien, quand t'es là elle se retient. Ses yeux étaient bizarres, couleur d'huître, vert serpent, on aurait dit qu'elle était folle, toujours un peu ahurie. D'ailleurs, quand j'y repense, elle était vraiment cinglée. Partout sur sa peau, elle avait fait tatouer le nom et le visage de Freddie Mercury. Quand ta mère était là, on se tenait à carreau. Heureusement, la plupart du temps, elle dormait dans la chambre, parce que toute la nuit, elle était sortie au Pacific Club avec des amis. Toi, tu savais bien qu'elle avait pas d'amis. Tu faisais comme si, d'ailleurs, on n'en parlait pas. Parfois, elle était gentille. Elle venait s'asseoir sur le canapé. Elle était maigre comme toi. Alors, elle me fixait. Moi, je n'aimais pas tellement ça. Elle nous parlait de sa jeunesse. Ton père l'écoutait, il ne disait rien. Il n'avait pas intérêt, je crois qu'il s'en foutait. Elle racontait toujours la même histoire. La rencontre dans un train avec un chanteur connu dans les années 80. Elle aurait pu le suivre pour de bon. Si ma mémoire est bonne, c'était Yves Simon. Parfois, moi je lui parlais, mais pas trop longtemps. Un peu comme un défi, aussi pour être poli. Je faisais bien attention, fallait pas dire du mal de Freddie Mercury. Fin juin, on avait presque plus court. On est resté au bord du lac à boire des bières, piquer au père. Je t'ai parlé de mes vacances à côté de Palavas. Tu m'as dit, moi, tu sais, j'ai jamais vu la mer et je sais pas nager. Pourtant, Arras, c'était pas bien loin de la Manche. j'étais allé regarder. Tu m'as dit justement que t'allais sans doute déménager, retourner là-bas. Que ta mère, elle s'en foutait si t'arrêtais l'école. Qu'elle voulait que tu restes avec elle. Mais que toi, tu donnerais cher pour aller à la fac. Que c'était ton truc, les bouquins, la philo, qui t'a trouvé un petit boulot. T'avais pas l'air en forme. J'ai rien dit. J'ai regardé ton front. T'avais un bleu énorme. Plus tard, ta mère a lancé une cafetière brûlante sur ton père. C'est passé à ça de ton visage. Il y avait des éclats de verre partout. Elle disait que ton père était minable, qu'elle aurait jamais dû avoir de gosse, qu'elle allait se foutre en l'air, se jeter sous un train. Elle a balancé une chaise par la fenêtre, aussi des assiettes, des dictionnaires ou des encyclopédies, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a griffé ton père à la joue, sur le bras. Toi, ça te faisait rire de me raconter ça. Elle avait dit aussi qu'elle communiquait avec lui, qu'elle voyait son esprit. Que jamais il serait devenu pédé s'il l'avait rencontré. Elle parlait bien sûr de Freddie Mercury. Le lendemain, j'ai sonné chez toi, mais personne m'a ouvert. Derrière la porte, ta mère qui hurlait, et la musique à fond. Elle me traitait de pédale, tout ça se mélangeait, les cris, Bohemian Rhapsody. Alors je suis reparti, j'ai traversé la cour, j'ai marché pas longtemps jusqu'à l'abribus, et tu m'as rattrapé. T'en fais pas, reviens dans 2 jours, le temps qu'elle se calme. Tu m'as dit ça et je suis sûr que si t'avais pu, t'aurais pleuré dans mes bras. Ensuite, silence radio. À l'époque, on n'avait pas de portable, seulement un fixe, parfois un répondeur, mais là, c'était pas le cas. J'appelais tous les jours, le matin, le soir, ça sonnait dans le vide. Début juillet, avant Palavas, je suis passé devant l'immeuble, devant le numéro 12. Les stores étaient baissés, la sonnette marchait plus. Et sur la boîte aux lettres, il n'y avait même plus ton nom. Des années après, je pense encore à toi, à ton jean délavé, à ton corps efflanqué, à ton rire, à la musique qu'on écoutait. Aucune trace de toi, nulle part. Pourtant j'ai cherché, ouais, j'ai cherché. Mais où que tu sois, je pense souvent à toi. T'es vivant comme ça. T'es vivant comme ça. Et quand j'écoute la voix de Freddie Mercury, promis, je me moque pas. Promis. Je me moque pas.
On vient d'écouter Florent Marchais.
Ouais, mon titre, Freddie Mercury. Je vous conseille d'aller voir le clip sur sa chaîne YouTube parce que en plus, ça met en perspective ce titre qui est absolument sublime. Florent Marchais, donc, va évidemment promouvoir ce titre sur scène. Et on a beaucoup de chance à Lyon, puisque, enfin, dans la région lyonnaise. Pourquoi ? Parce que Florent sera là plusieurs fois dans la région. Il va venir donc le 14 octobre à l'Épicerie Moderne et il va revenir pour le festival Les Nuits Givrées à Dardilly, donc juste à côté de Lyon, un très sympa festival qui dure 2 jours, hein, qui accueille souvent des artistes plutôt qui chantent en français. Et donc à Dardilly, au festival Les Nuits Givrées, Florent Marchais sera là le 27 janvier 2023. Ne le ratez pas et on va réécouter un autre titre en famille.
Jour de fête Montargis, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné en famille. En famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil. On s'embrasse, on s'agace. En famille. En famille.
qu'on s'éloigne, on s'accuse, on s'empoigne. Au mieux on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal. On reste pas longtemps en famille. 40 ans les calmants et des heures de divan. Se sentir écrasé. 18 ans sur le ring, cheveux bleus et piercing. On fait rien à moitié en famille. En famille. En famille. Empêcher de réveillons gâchés, jamais rien qui éclate. Parfois désobéir, j'ai quelque chose à vous dire. On est rouge écarlate en famille. Se chercher s'adoucir pour ne pas devenir l'oncle qu'on détestait. Un soir ça vous rattrape, un mot qui vous échappe. On n'a jamais la paix en famille. En famille. En famille. En famille. Des gosses insupportables, comme ils se tiennent à table. J'aurais pas fait comme ça. Et sous la véranda, le café un peu froid. On est rarement chez soi en famille. Un matin on est mal, téléphone hôpital et les épaules qui tremblent. On se serre dans les bras, oh merci d'être là. Dire qu'on est tous ensemble en famille. En famille. En famille.
D'écouter En famille de Florent Marchais. Je ne sais pas si ça vous a rappelé vos propres repas de famille, mais je trouve que ça tend un miroir, encore une fois. C'est une sorte de polaroïd, d'instantané. Donc voilà, l'album Garden Party de Florent Marchais est sorti. Il faut absolument l'acheter. Et puis, il faut aller l'écouter sur scène, parce que sur scène, c'est un grand conteur, Florent. C'est quelqu'un qui, entre les morceaux, continue de raconter des histoires. Et je précise aussi qu'à l'Épicerie Moderne, en première partie, il y aura un groupe de la région lyonnaise qui s'intitule Wendy Martinez. C'est formidable aussi, c'est un pop-rock et je trouve que ça fait une belle entrée en matière pour Florent Marchais après.
On sera au rendez-vous de l'Épicerie Moderne, je le rappelle, le 14 octobre prochain. Place au Gédéon pour terminer cette nouvelle édition. Veux-tu commencer, Gaëlle ? On vient d'entendre Guillaume qui nous parlait de Florent Marchais. On va lui laisser reprendre sa respiration. Est-ce que tu as envie de nous parler de ton Gédéon, Gaëlle ?
Mon Gédéon de la semaine est un événement qui va faire du buzz. Savez-vous que l'empereur Adrien visite Luc Dunhomme les 8 et 9 octobre prochains ? Pour la venue d'un tel invité de marque, la capitale des Gaules sait recevoir et organise un grand week-end festif avec un voyage pour la Rome antique. Rendez-vous à Luc Dunhomme, musée et théâtre romain, pour la deuxième édition du festival romain. Une centaine de reconstitueurs de la Rome antique vous accueillent, ainsi que l'empereur Adrien, avec deux journées d'animation et de spectacles. Entraînement de gladiateurs, joutes de cavaliers, théâtre, musique, atelier et bien sûr, clou du spectacle, la rencontre avec l'empereur Adrien et la garde impériale. L'entrée est libre dans la mesure des places disponibles, mais sachez que la première édition avait connu un immense succès, donc n'organisez pas votre arrivée au dernier moment. Si vous souhaitez encore mieux apprécier le sens de la fête chez les Romains, Luc Dunhomme, le musée, programme dès le 6 octobre et jusqu'au 11 juin 2023 l'exposition spectaculaire Le Divertissement chez les Romains. Tout un programme de réjouissance en perspective. Plus d'informations sur lucdunhomme.grandlyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle. C'est vrai qu'on parle peu de ce musée Luc Dunhomme et pourtant le site est extraordinaire et il accueille également une partie de la Biennale d'art contemporain. Guillaume, cette semaine c'est littérature dont il est question avec Brigitte Giraud.
Elle est un peu dans tous les médias en ce moment et c'est quand même très mérité du dernier livre de Brigitte Giraud, notre lyonnaise favorite, qui s'intitule Vivre vite. C'est un bouquin vraiment magnifique, évidemment de par l'écriture, de par le sujet puisqu'elle a perdu son compagnon en 1999. Et c'est une sorte d'enquête un peu à rebours, un petit peu à la manière finalement de Carré 35, le film d'Éric Caravaca. Ce livre, c'est à la fois un récit tendu, un récit qui pourrait être triste, mais en fait qui est plein d'amour, plein de vie. Ensuite, c'est aussi une déambulation dans Lyon, comme on le voit assez rarement. Moi, ça m'a fait un petit peu penser au bouquin de Paul Auster, un petit peu l'Américain qui déambule dans New York. Donc on découvre un petit peu à nouveau la ville. Et puis c'est surtout un livre très très musical, puisque le compagnon de Brigitte Giraud travaillait à la discothèque de La Part-Dieu et donc était journaliste musical et donc était un éminent amateur de musique. Une sorte de parcours musical, on entend Dominica et on entend un morceau d'un groupe américain qui s'appelle Death in Vegas, avec un morceau qui s'appelle Dirge. Et ce morceau, évidemment, c'est peut-être le dernier morceau qu'a écouté Claude, le compagnon de Brigitte. Et ce morceau, elle le décrit d'une manière admirable dans le livre, parce que ce morceau, finalement, il dure assez longtemps. Je disais tout à l'heure, on parlait de format radio. Eh bien, il y a des morceaux qui sont un petit peu plus longs que le format radio. Et quand Claude a écouté ce morceau, peut-être qu'il s'est mis en retard et peut-être que ça a provoqué cet accident de moto. Et donc, ce qui est formidable dans ce livre, c'est cette litanie des si. Vous savez, hein, on se demande, ben voilà, si on avait fait si on avait fait ça. Évidemment, si on a fait d'autres choix, eh bien, peut-être que l'action ne serait pas déroulée de la même façon. Alors, évidemment, dans notre quotidien, Brigitte le précise hein, dans maintes interviews, dans notre quotidien, on ne pense pas toujours à se demander bah voilà, nous sommes au théâtre Comédie Odéon et si on avait fait autrement, peut-être qu'on n'y serait pas. Bon, là, évidemment, d'être au théâtre, c'est pas un drame. Au contraire, c'est un vrai bonheur. Mais, évidemment, dans le livre de Brigitte, eh bien, c'est toute une sorte de compte à rebours, en fait, de retour en arrière pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et finalement, on ne sait pas à la fin comment ça s'est passé. Mince, j'ai mangé la fin du livre. Mais en fait, c'est le trajet qui est important dans ce livre. C'est vraiment un livre magnifique. Je précise qu'il est toujours sur la liste du Goncourt actuellement. Je milite pour que ce livre ait le prix Goncourt cette année. Que ce livre, vraiment touchant, et qui peut toucher beaucoup de gens, parce qu'évidemment, le décès d'un proche, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher, mais c'est absolument pas, larmoyant. Voilà, il y a de l'amour, en fait.
En effet, un magnifique livre, et on va terminer sur ce mot d'amour qu'on vous transmet également, en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur lyondemain.fr.